Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
En ce 1er mai, c'est un personnage peu recommandable que Franck Ferrand nous propose de rencontrer. Je lui laisse le soin de vous révéler son nom. Bonjour Franck.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Son nom, c'est une chose, son apparence est restée célèbre. Imaginez sans doute le chauve le plus connu de tous les temps, avec une barbiche en pointe et avec ses deux yeux de souris scrutateurs qui faisaient trembler la foule lors de son procès. Nous allons parler d'un des pires criminels du début du XXe siècle, le sieur Landru.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Nous sommes à Gambais, au plein cœur de la Première Guerre mondiale. Gambais se trouve dans les Yvelines aujourd'hui, à l'époque on appelait ça la Seine-et-Oise. C'est tout près d'Oudan et c'est à la lisière de la forêt de Rambouillet. Le maire de Gambais reçoit deux lettres. La première, on est dans l'hiver 1917-1918, est une lettre adressée par une famille, la famille Pellet, qui demande l'adresse exacte à Gambais d'une certaine dame Colomb. Cette dame Colomb est censée vivre dans la commune avec un certain monsieur Frémiet. Problème, il n'y a pas de monsieur Frémiet à Gambais. Quelques mois plus tard donc, le maire reçoit une deuxième lettre de la part d'une demoiselle Lacoste cette fois, qui est sans nouvelles de sa sœur, une certaine madame Buisson, vivant avec le mystérieux Frémiet dans une maison, dit-on, isolée du village. Cette fois, le maire se pose quand même des questions. Il a une réaction intelligente. Il conseille aux deux familles de se rencontrer et éventuellement de déposer plainte contre X. De son côté, il mène sa petite enquête, ce maire, évidemment. Il identifie facilement la maison. C'est la Villa Tric, du nom de son propriétaire, qu'il l'a fait louer par un tiers, à un certain monsieur Dupont. Un monsieur Dupont dont on est sans nouvelles à ce jour. Voilà qui commence à faire déjà pas mal de mystères. Évidemment, cette énigme ne pouvait qu'aboutir à l'ouverture d'une enquête. Le commissaire d'hôtel est chargé de l'affaire et il commence par patauger un peu, disons-le, jusqu'au jour où il reçoit un coup de téléphone providentiel. Invention encore récente, le téléphone, et le coup de téléphone à l'époque, c'est souvent le deus ex machina, vous savez. C'est une amie de mademoiselle Lacoste qui appelle en vérité le commissaire. Elle a rencontré le fiancé de la fameuse madame Buisson. Or, elle jure avoir reconnu cet homme dans un magasin de vaisselle près du Châtelet. Le magasin s'appelle le Lion de Faïence. Au moment où il s'est senti reconnu, l'homme a sauté dans un autobus. Les enquêteurs, bien entendu, vont le retrouver. Ils se rendent d'abord au magasin, ils obtiennent l'adresse de celui qui se fait appeler maintenant monsieur Guillet, et les deux inspecteurs se retrouvent donc à cette adresse au 76 rue Rochechouart. Ils vont faire une planque, ils finissent par voir le dit Guillet rentrer chez lui, seulement à ce moment-là il fait nuit, ce qui veut dire qu'on n'a plus le droit de l'arrêter, il faut attendre le petit matin. C'est ce que vont faire les deux inspecteurs qui le cueillent donc avec sa maîtresse, une certaine Fernande Segret. On les emmène au poste, tous les deux, Fernande et le monsieur Guillet, et le commissaire d'hôtel n'a aucun mal à établir l'identité du prétendu Guillet. Il s'agit en fait d'un escroc bien connu de la police sous le nom réel d'Henri Désiré Landru. Qui est ce Landru? Eh bien, je vous propose d'attendre un peu pour le savoir plus en détail. Nous allons revenir sur son enfance, sur sa jeunesse, sur l'ensemble des circonstances qui l'ont amené là où il en est. Disons seulement que sa mère était couturière en chambre. Couturière en chambre, vous savez, c'était un métier très répandu à une époque où le prêt-à-porter n'existait pas, évidemment. Quand je dis que c'était très répandu, c'était même pour les femmes le métier le plus répandu. Landru, de son côté, il est donc d'un milieu assez modeste, mais il a été sans doute bien entouré, aimé, choyé même, on en reparlera dans un instant. Landru a fait 36 métiers, il a même fabriqué des bicyclettes avant de verser dans l'arnaque pure et simple. On lui connaît déjà 5 condamnations pour escroquerie et abus de confiance, de préférence au détriment de jeunes femmes. Il faut dire que, malgré son physique assez peu avantageux, c'est le moins qu'on puisse dire, l'homme est un séducteur et qu'il lui faut nourrir, lui qui n'a pas d'emploi fixe, une femme et 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Le commissaire d'hôtel ne perd pas de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est de retrouver ces femmes qui avaient fait l'objet de la part de leurs familles respectives de ces lettres adressées au maire de Gambet, rappelez-vous, mesdames Buisson et Colomb. Alors, où sont-elles ? Mais je n'en sais rien, répond Landru. Je ne suppose pas que vous m'accusez de les avoir expédiées à Buenos Aires, répond-il. Ça, d'emblée, c'est la personnalité de cet homme-là qui ressort. Il a tendance volontiers à se montrer mordant avec ceux qui l'interrogent. Il ne manque pas d'humour, il a beaucoup d'abattage. On a presque l'impression que les questions n'ont sur lui aucune prise. Non, répond le commissaire. Ce dont je commence à me douter, c'est qu'elles ont été assassinées. Oh, c'est bien gros, monsieur le commissaire, répond Landru. Il y va de la tête d'un homme, et à ce moment-là, il ajoute, on se croirait dans un feuilleton judiciaire, il ajoute, je ne parlerai plus qu'en présence de mon avocat. Ça aussi, c'est un trait de la personnalité du bonhomme, c'est qu'il a un sens assez aigu des droits qui sont les siens. Or, dans les poches de Landru, les policiers ont découvert deux carnets. Le premier, c'est un registre de comptes extrêmement méticuleux, très détaillé, sur lequel l'enquête pourra s'appuyer largement. Ça va lui coûter cher, ce carnet-là. Et puis l'autre, alors là, l'autre calepin est rempli de toutes sortes de notations assez incompréhensibles. Seulement sur la première page, il y a 11 noms. Cuchet. Ah, quand je dis 11 noms, plus exactement, il y a 10 noms. Mais vous avez Cuchet, la ligne du dessous, J. Ibide. Et puis ensuite, Brésil, Crozatier, Arne, Colomb, etc. Et on retrouve les noms de Buisson et de Colomb. 10 ou 11 noms ? 11 femmes, se demande-t-on ? 11 victimes ? Ce sont les noms de vos victimes, n'est-ce pas ? Je n'ai rien à répondre. Si vous voulez m'accuser de ces 11 crimes, c'est à vous, monsieur le commissaire, qu'il appartient d'en faire la preuve. Or, il y a bien 11 disparitions, mais on est loin d'avoir trouvé le moindre corps. Et ça, c'est toute l'affaire Landru.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et Franck Ferrand poursuit son récit sur Europe 1, sur l'affaire Landru. Et nous en sommes au moment où il est interrogé par la police.
Alors, n'en déplaise à l'accusé, dont la mauvaise volonté, la ténacité et l'ironie sont constantes, l'enquête progresse, et elle progresse même assez vite, notamment grâce à une quittance de loyer qui traînait rue Rochechouart. La police met la main sur le contenu indescriptible d'un garage que Landru louait à Clichy. Et là, au milieu de meubles et d'effets dont je vous laisse imaginer la provenance, les enquêteurs découvrent de véritables archives, tenues avec un soin extraordinaire, des archives qui vont évidemment beaucoup faciliter la tâche des enquêteurs. Ces archives lèvent le voile sur la façon dont devait procéder le dangereux Don Juan. Il semblerait, vous allez voir que pour l'instant nous en sommes aux hypothèses bien entendu, que notre Landru passait de petites annonces dans les journaux. N'oubliez pas qu'on est en temps de guerre. Il recevait des réponses à ces annonces. Et évidemment, il les classait soigneusement, puis il relançait les plus intéressantes. Ses premières victimes auraient été Madame Cuchet et son fils. C'est le seul individu masculin de la liste. C'est celui pour lequel il y avait donc écrit J. Ibide, puisqu'il portait le même nom que sa mère. Probablement tués ces deux-là le 31 mars 1915. Comment ont-ils été tués ? Ont-ils été étranglés ? Ont-ils été empoisonnés, tués par balles ? Toutes les hypothèses sont possibles, on va revenir là-dessus dans un instant, bien entendu. Pour faire disparaître les corps, Landru les brûle, ce dont témoigneront des voisins qui ont remarqué la fumée noire et grasse qui venait souvent de chez lui. Il a eu deux adresses, Landru, à cette époque. De mai 1914 à la fin de 1915, il habitait la villa de Lodge, qui était 47 rue de Mantes, à Vernouillet. Et puis, à partir de 1916, il a habité le fameux ermitage, c'est-à-dire cette villa trique dont je vous parlais, à Gambet. Il serait vain, il serait fastidieux et assez morbide, pour tout vous dire, en ce jour de 1er mai, de revenir un à un sur chacun de ces 11 cas de meurtre imputables à Landru. D'ailleurs, je parle de meurtre, mais bien entendu, lui ne l'entend pas de cette oreille. « Montrez-moi les cadavres » dit-il. « Montrez-moi les cadavres !» C'est son leitmotiv. Et c'est vrai que, de ce point de vue, la police n'a pas grand-chose à répondre. Le juge d'instruction s'appelle M. Bonin. Il n'a pas tardé à se forger une intime conviction. Pour lui, Landru séduisait des cœurs solitaires au portefeuille un peu garni. Il les tuait, il faisait disparaître les corps. Alors il explique tout ça. Il y a une première audience de lecture des rapports d'instruction et à la fin, Landru le regarde. « Vous en avez fini, monsieur le juge ? « Oui, répond le juge. Eh bien, sauf votre respect, vous avez dit beaucoup de bêtises. Évidemment, la personnalité de Landru va faire beaucoup dans la notoriété d'un cas qui, en soi, est déjà important, mais qui, bien entendu, du fait de cette ironie constante et de l'extraordinaire aplomb de l'accusé, va finir par devenir un phénomène de presse. On ne cesse de relever tous les éléments de l'enquête. Les comptes rendus d'instruction font rire le public. Ce n'est pas le moindre des paradoxes de cette affaire que de voir Landru peu à peu, par son flegme, par cette espèce de brio détaché, par sa misogynie aussi, disons-le, mettre les rieurs de son côté. Il n'empêche, les preuves s'accumulent comme autant d'évidences qui suffiraient à confondre tout autre accusé. Par exemple, la dernière sur la liste, qui s'appelle Thérèse Marchadier et qui s'était prostituée sous le nom de la belle Mitaise, a été vue au bras de Landru à la gare de Houdan en compagnie de trois petits chiens. Or, dans le jardin de Gambet, les policiers, justement, ont retrouvé les cadavres de trois petits chiens. « Oh !» parce que Landru a réponse à tout. « Bien sûr, dit-il, elle m'avait demandé de les supprimer. » Pourquoi ? Selon ses propres comptes, à chaque fois qu'il se rendait à Gambet, pourquoi Landru prenait-il un aller-retour jusqu'à Gambet et ensuite un aller simple ? Oh, il explique que l'aller-retour était pour ces dames et que lui ne prenait qu'un aller simple. Et c'est vrai qu'on a envie de dire, c'est assez logique. Alors il y a la question des scies également. Pourquoi avoir commandé toutes ces scies ? Nous entrons dans des détails macabres et nous allons bientôt revenir sur ces aspects. À la fin, le juge d'instruction est en mesure de conclure sur le mobile principal de Landru. C'est l'argent. Vos crimes, lui dira-t-il, vous ont rapporté en tout 35 642 francs 50, soit une moyenne de 3564 francs par victime. Sur 4 ans, ça n'est pas considérable, mais bien entendu, 35 000 francs de l'époque, c'est une très belle somme. Les semaines et les mois vont passer, pour ne pas dire les années. L'affaire Landru, si touffue, si complexe dans le détail de tous ces rebondissements, est maintenant prête à être jugée par la cour d'assises de Versailles. Elle le sera à l'automne 1921. Landru, à ce moment-là, bénéficie des conseils du plus grand maître du barreau de l'époque, le célèbre maître de Moreau Giafferi, qui est assisté lui-même par un jeune confrère très talentueux, maître Navière Dutreuil. Les audiences vont bientôt s'ouvrir, elles s'ouvriront le 7 novembre. Comment se sont déroulées ces audiences, mais surtout, qu'est-ce qui les a précédées et que nous apprennent-elles sur la personnalité tellement complexe de ce fascinant Landru ? Ce sont les questions que je vais poser à mes deux invités dans un instant.
Viens dans ce joli pavillon, il sera très indulgent, très bon.
Pavillon sur Europe 1, c'est un extrait de La Veuve Joyeuse, opérette de Franz Léard. Franck Ferrand et ses invités.
Ce sont des invités pas comme les autres qui nous ont rejoints pour parler du sire de Gambet, comme la presse avait fini par surnommer ce terrible Landru. Quand je dis pas comme les autres, c'est que je n'ai pas eu recours à des historiens de la police ou de la justice. Je me suis amusé à avoir recours à des personnes qui, sur cette affaire Landru, porte un regard spécifique et qui
une
est lié
intime conviction
et bien sûr une intime conviction. Merci Francesca Biagisciai d'être avec nous. Vous êtes psychanalyste et le regard que vous portez sur l'Andru est évidemment un regard qui est lié à la pratique de la psychanalyse, et vous en avez tiré un ouvrage passionnant sur lequel nous allons bien sûr nous étendre. Et puis, je ne présente pas évidemment aux auditeurs d'Europe 1 Marc Menant. Vous allez dire, tiens, pourquoi Marc Menant sur l'Andru? Je vous rassure, je n'ai...
Comme coureur de femmes.
Peut-être, on pourrait dire ça. En l'occurrence, c'est surtout en tant... Alors là, c'est assez amusant. En tant que voisin que j'ai eu l'idée de vous inviter, mon cher Marc, car, disons-le, vous habitez à quelques pas de la maison de l'Andru à Gambay. Enfin, vous êtes, vous, sur la commune juste limitrophe.
Juste à côté, oui, tout à fait. Alors, ce qui est étonnant, c'est que cette maison, quand on la voit, on a l'impression de faire un pas en arrière, un bond étonnant. Elle est exactement dans sa configuration de l'époque, à la brique près. Et alors, il y a les toilettes à l'extérieur, il y a les appentis où on a retrouvé les cadavres des chiens que vous évoquiez tout à l'heure, et la maison... Elle est tout le temps fermée, et néanmoins, quand vous appelez la mairie, vous dites, ben voilà, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a aujourd'hui des gens assez étonnants qui se seraient accaparés les lieux? On vous dit, oui, elle est louée depuis plus de 25 ans. Mais alors, mystère des mystères, les volets sont toujours clos, et le jardin, lui, est constamment entretenu. Et la maison se trouve pratiquement à l'écart du village, comme c'était le cas à l'époque. Simplement, c'est greffé, adossé à l'une des haies, un pâté de maison, un lotissement, qui la sépare du cimetière.
Alors, ce qu'il faut dire, parce que évidemment ça fait partie de l'ambiance, c'est que cette maison, a priori, se trouve dans un décor, dans un paysage d'un calme, d'un parfaitement rassurant, parfaitement charmant. On est dans ce que la banlieue, la grande banlieue parisienne, peut offrir de plus charmant, de plus bucolique.
Ah, mais c'est invraisemblable, parce qu'il n'y a pas que la maison. À part, je vous dis, ce lotissement qui est là, mais bon, relativement intégré, la région, vous n'avez pas véritablement de centre commerciaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes ces affiches, toute cette laideur qui a fini par gangréner la France. Vous êtes dans un paysage authentique du début du XXe siècle.
On entend les petits oiseaux, on voit les ruisseaux couler et on se dit c'est là.
Et vous apercevez quelques biches qui s'échappent de la forêt de Rambouillet.
Donc tout va bien, c'est un décor pour Bambi et finalement il semblerait que ce soit plutôt Jack l'Éventreur ou Dracula qui est vécu dans les lieux. C'est assez stupéfiant et bien sûr ça va avoir sur l'opinion publique de l'époque un retentissement phénoménal. Le tout Paris se presse au procès qui s'ouvre en cet automne 1921. On reconnaît dans le public Colette, Mistinguette, la princesse Hélène de Grèce, la duchesse de Valentinois. Toutes ces grandes dames se sont levées très tôt pour avoir de bonnes places.
Et Maurice
Chevalier est là, bien sûr. Et l'on voit malgré le froid précoce, des personnes qui sont venues au cœur de la nuit pour essayer d'avoir une petite place dans les fin fond de la salle. La France entière a les yeux, cette France qui sort de la Grande Guerre avec toutes les meurtrissures que cela peut supposer. 1921, on a du mal à imaginer aujourd'hui tout le pathos qui était celui de l'immédiate après-guerre. Mais donc dans ce climat déjà très lourd, on peut dire que la France a les yeux rivés sur la salle des assises de Versailles et que bien entendu la petite silhouette de l'Andru cristallise tous les regards. Alors il va y avoir bien entendu dans ce procès des études psychologiques. Et on demande, c'est toujours la grande question de base, la grande question centrale, est-ce que cet homme était sain d'esprit ou bien est-ce qu'il était fou? C'est toute la question de la responsabilité judiciaire. Alors, puisque vous êtes du métier, vous, Francesca Biagisciai, j'ai envie de vous poser la même question. Et je me doute que la réponse que vous allez me faire ne sera pas tout à fait la même que celle des experts de la Belle Époque.
Non, ce ne sera pas la même. Les experts ont dit... En dehors de ces crimes, il est en tout point normal.
Ça, si je me permets, c'est au moment du procès. Oui. Mais en 1904, lors d'une de ses premières condamnations, il y avait deux médecins aliénistes qui avaient été convoqués. Le premier s'appelait Vallon.
Condamnation pour des faits très mineurs.
Oui, très mineurs, mais des petites escroqueries pitoyables. Et donc Vallon et Dubuisson, qui eux, au contraire, disent ce personnage, héréditairement parlant, est un personnage malade qui est inconscient de ses faits et gestes et qui ne peut être considéré comme responsable.
Vous avez d'autant plus raison que lorsqu'il est incarcéré pour la première fois à l'Andru en 1904,
voilà,
il fait une tentative de suicide dans sa geôle. Et qu'à ce moment-là, on croit qu'il simule. Or, c'est peut-être la seule fois où finalement ce qu'il y a de mort chez lui... dans son être, le point mortel qui est en lui apparaît tel quel.
Mais on a l'impression que les experts dans cette affaire ne sont pas libres de leurs propos. Si jamais ils font reconnaître tant soit peu la folie de Landru, alors il ne sera plus responsable. C'est ça la question.
C'est ça. C'était ça à l'époque du fameux article 64 qui a été modifié, qui est devenu le 122 avec un alinéa qui permettrait d'accorder des circonstances atténuantes, si tant est qu'on peut dire ça pour Landru, mais qui rend aujourd'hui encore les experts prisonniers. En réalité, il y a une manière de lever cette question. Si vous voulez, la folie, c'est cette logique intime d'une vie que rien, rien ne peut remettre en question. Landru est un sujet hors dialectique. Il est un sujet un et il n'y a pas autour de lui d'existence réelle pour ce qui le concerne. Il y a une sorte de mortification de la vie. Maintenant, ce à quoi on est confronté toujours, c'est la question de « alors vous l'excusez ». Il ne s'agit pas de ça. Faire intégrer, permettre qu'une sorte d'intégration au sens mathématique du terme fasse que tous les éléments de sa vie viennent trouver leur place dans le déroulement de cette vie est une chose. Et les circonstances qu'on voudra bien lui accorder ou non n'appartiennent ni au psychiatre ni au psychanalyste, c'est autre chose.
Néanmoins, quand la rumeur vient dans les journaux qu'on pense qu'éventuellement il puisse être fou, il écrit au procureur, il dit « Je ne suis pas fou, je m'élève contre cette nouvelle machination, je veux pouvoir paraître devant la justice, il n'y a que des mensonges, tout un tripotage qui est fait autour de moi, je veux être jugé, je ne veux pas qu'on m'envoie dans un cabanon, ça arrangerait tout le monde. »
C'est pour ça qu'il est fou.
C'est en cela même
qu'il est fou. Parce que, évidemment, il sait très bien qu'il va être condamné à mort. Il ne s'agira pas de cabanon, de quoi que ce soit. Là, on est... Et lorsqu'il tue sa première femme, il est déjà mort en lui-même.
Cuchet, là, en
l'occurrence. Oui, et quoi qu'il arrive après, son destin ne l'intéresse absolument pas.
On a l'impression qu'il est détaché par rapport au monde, qu'il est détaché par rapport à lui-même, et pire, qu'il est détaché par rapport à l'ensemble des horreurs qu'il est quand même supposé avoir commis. Je crois qu'on peut l'admettre. Qu'a-t-il fait exactement? Comment a-t-il procédé? Quels sont les mystères qui peuvent demeurer? Nous verrons ça tout à l'heure vers la fin de l'émission. Dans un premier temps, ce que je vous propose d'étudier ensemble, c'est la personnalité tellement limite et tellement étrange de ce personnage. Et pour nous allons faire tout simplement comme les experts judiciaires. Pour étudier cette personnalité, nous allons remonter à son enfance.
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Landru, Landru. Landru, vilain barbu, tu fais peur aux enfants, tu séduis les mamans. Landru, Landru, ton crâne et ton poil de rue ont fait tomber bien plus d'un prix de vertu. C'était, je crois, en 1923 que ton procès eut le succès que l'on sait. Landru, Landru, dommage qu'elle t'ait cru, toutes celles qui sous ton toit brûlèrent pour toi.
Charles Trenet, vous allez tout savoir sur Landru cet après-midi sur Europe 1 grâce à Franck Ferrand.
À l'époque de l'affaire Landru, nombreux étaient ceux que Landru faisait rire. Et de nos jours encore, presque à chaque fois que j'ai l'occasion, pour une raison ou une autre, de prononcer son nom, je vois une sorte de sourire se dessiner sur le visage de mes interlocuteurs. Alors au risque de vous paraître manquer d'humour, je trouve quand même un peu bizarre et pour tout vous dire, navrant cette attitude. C'est vrai que la calvitie, les très gros sourcils, le regard fixe de Landru en font en apparence une sorte de savant cosinus un peu amusant. Et c'est vrai que sa courtoisie extrême et en même temps moqueuse, sa répartie facile en font un personnage attachant, à la limite même du sympathique. Mais ce sont des apparences trompeuses. Gardez ce drôle de faciès à l'esprit et imaginez maintenant cet homme chauve au regard fiévreux, avec une scie à la main calfeutrée dans la pénombre de sa maison isolée, en train de dépecer ses victimes en petits morceaux pour aller les faire brûler dans sa cuisinière. Je vous jure que si vous pensez bien à ça, le personnage de Landru vous fera sans doute un peu moins sourire, et j'espère même pas du tout. Alors, a priori, un personnage qui en arrive à commettre de tels crimes est supposé être lui-même le produit d'une enfance épouvantable, de toute une catastrophe familiale. Et là, nous dit Marc Menant...
Ben, pas du tout. D'ailleurs, son deuxième prénom, c'est Désiré. Henri Désiré Landru. Et ses parents, c'est une histoire à l'eau de rose. Ils sont là, ouvriers, certes, mais ils envisagent une vie rayonnante grâce au petit qui naîtra de l'effervescence d'essence. Il est fils unique. Et alors, cet enfant, on le choisit. Il est merveilleux. Il a des yeux qui déjà fascinent. Et en dehors tout, il est docile, il est amusant, il étudie, il s'avère très rapidement un très bon élève. Il adore la musique, il chante à la chorale. On est très croyant chez ces gens-là. Il va donc à l'église le dimanche matin avec maman. Et on le verra d'ailleurs, même lorsqu'il a 20 ans, continuer appartenir à une chorale et également jouer les sous-diacres, c'est-à-dire quand il n'y a personne pour servir la messe, il est là, il se précipite à 20 ans. Et dans les annonces qu'il rédige et lorsqu'il répond à ses correspondantes, il dit « Je veux une femme qui soit imprégnée de religion ». Et à un moment également, il attaque les policiers en estimant que les journalistes aussi n'ont pas assez de religion. Donc c'est un enfant tellement cubéni qu'à un moment donné, on envisage de le placer au séminaire. Et puis, bon, bah, les circonstances, il est tellement doué qu'il ira à l'école chez les pères. Mais après ce détour, à 16 ans, il va choisir d'entrer dans une école technique pour être dessinateur industriel. Mais il a été couvé, c'est l'enfant presque de la bourgeoisie, bien qu'étant de la roture. Et cet enfant-là, on lui prédit le plus beau des destins.
Et en même temps, on se rend compte qu'il n'arrive à pas grand-chose dans sa vie. Il tourne très vite à la petite escroquerie.
À 30 ans. À 30 ans, c'est-à-dire que jusqu'à 30 ans, il tente plusieurs métiers. Alors, il faut savoir qu'il va connaître une grande histoire d'amour. Parce que ça, c'est déclencheur aussi. Il a 19 ans, il rencontre une jeune fille dans la rue. Puis à l'époque, on est plutôt empêtré, on n'ose pas s'avouer. Ben lui, non, il aborde. Il a ce sens de l'éloquence qui va toutes les fasciner, qui va toutes les étourdir. Et donc, ils vont covoler. Et il obtient même de fauter avant le mariage. Va naître un enfant hors mariage, et ensuite il lui faudra réparer. C'est un premier garçon qui s'appelle Maurice, et puis il y aura une deuxième enfant. Et là, il va partir au service militaire, d'où il sortira sergent. Donc on voit bien que c'est un garçon intelligent. Il est capable de raisonnement et de capacité intellectuelle remarquable.
Mais justement, Francesca Biagicia, cette intelligence, cette capacité à embobiner le monde, les femmes, mais aussi ses clients, etc., l'amène à avoir une attitude... pas toujours très droite quand même. Hein,
voilà, parce que en réalité, il est au fond de lui, il y a cette part mortifiée. Et ce qui vient d'être dit le concernant est juste, mais en même temps, ça n'est pas tout à fait de cette manière-là que ça se présente. Il n'a pas rencontré sa femme dans la rue, c'était la voisine, c'est-à-dire elle était juste à côté. Elle est un petit peu plus âgée que lui, elle fait le même métier que sa mère. Il était sous-diacre, mais pas vraiment religieux. Il aimait les beaux habits, il aimait l'esthétique. Esthétique et ironie, ce sont là les deux éléments. Et lorsqu'il écrit aux femmes, il n'écrit pas à partir de son point de vue à lui. Il écrit à partir, il a fait des études d'ailleurs sur ce que c'est que la psychologie féminine, pour pouvoir dire exactement ce qu'il faut dire pour séduire la femme en question, c'est-à-dire à la femme qui a une attitude ou qui a une pensée religieuse, il parlera de la religion, à celle qui pensera à l'argent.
Donc c'est un côté, c'est un caméléon en fait.
Absolument.
Il s'attache aux apparences en
Absolument.
Fait.
Absolument.
Mais c'est quand même un amant formidable. Il rencontre Madame Jaume. Madame Jaume, elle a quitté son mari parce qu'il voulait simplement connaître l'effusion d'essence avec elle. Elle est tellement puritaine qu'elle refuse. Et elle va passer une petite annonce. Il se rencontre.
Elle ne voulait pas coucher avec son mari,
non,
c'est ça?
Oui. Bon. Donc elle fuit son mari. Et eh bien lui, il va réussir malgré tout, sans se marier avec elle, à obtenir non seulement qu'elle soit dans ce débord d'essence, mais ils vont rester 4 jours enfermés chez elle. Et quand on voit Fernande Segret...
Fernande Donc Segret, ça, c'est la dernière, celle qui a échappé de justesse à la catastrophe.
Voilà. Et Fernande Segret, mais qui est sa maîtresse. C'est-à-dire qu'il l'aime véritablement. Pendant des mois, il est avec elle, tout en ayant ses magouilles à Gambet.
Oui. Vous êtes en train de me dire que c'est moi qui me trompe. Fernande Segret ne fait pas partie de la liste
Non, c'est elle qui va donc échapper si l'on pense qu'elle était sur la liste, mais apparemment pas du tout.
Non,
il l'aimait sincèrement. D'accord. Et elle dit, c'est un homme merveilleux. C'est un homme qui n'a que des intentions. C'est lui qui met la table le soir. Et en plus, petit détail, il dépose toujours des fleurs. Il n'a que de bonnes intentions. Et apparemment, quand on a des échos sur les rapports qui étaient le sien avec ses victimes, il avait la même attitude. C'est-à-dire qu'il était d'une prévenance teintée d'obséquiosité. Et dans ce monde extrêmement machiste, je suis certain que ces femmes qui étaient souvent en
elles
désespoir,
se flattées,
oui, elles se
mises en sécurité,
mises en sécurité, et soudain elles croyaient en un amour romantique, et c'est là qu'elles tombaient dans le piège.
Ce que vous dites est fort intéressant à propos du machisme, parce qu'en effet il ne pouvait pas l'être, parce qu'il manquait précisément.
C'est là que la psychanalyste nous est très utile.
Il manquait précisément des instruments, si on peut dire, symboliques pour pouvoir réussir dans la vie. C'est-à-dire, au fond, pour pouvoir, ne serait-ce que, lorsqu'il dessine ses bicyclettes, les vendre. C'est-à-dire avoir cette force de proposer dans un marché, de rivaliser avec les autres hommes. Il ne rivalise pas avec les autres hommes.
Oui.
Il fait partie d'un monde féminin. Il est lui-même féminisé. C'est en ça qu'il séduit très bien. Mais c'est une séduction vaine, c'est-à-dire qui ne peut porter de fruits, qui ne peut être dans un échange, qui est, au fond, sa folie, c'est une folie matérialiste.
Oui, mais pour autant, on pourrait penser que ça aurait pu être l'ordure pour l'ordure, qu'il tue. Or, il est un peu acculé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est père de famille. Il a 4 enfants. Il est arrêté plusieurs fois pour petite escroquerie. Puis alors des escroqueries sordides, c'est-à-dire qu'il pèle plus petit que lui. La première escroquerie dont il se rend coupable, il passe une petite annonce, déjà les petites annonces, hein, et il demande, il a fait des études d'architecte, et il demande des aides, sous caution, il leur remet l'arpenteur, etc., et il leur dit, vous allez vous rendre en banlieue pour mesurer le terrain. Mais confiez-moi votre vélo, c'est moi qui le remettrai au chemin de fer et vous le récupérerez à la gare. Et bien évidemment, il part avec la caution et puis avec le vélo qu'il revend. Mais c'est terrible, ce sont des pauvres bougres qui se trouvent ainsi victimes
c'est un peu
de
minable,
l'ombre.
Voilà. Oui.
C'est là où entre en jeu ce qu'est la logique d'une vie. C'est-à-dire que ce à quoi il obéit, en effet, c'est une logique intime et qui défie toute compréhension minimale. C'est-à-dire n'importe qui n'aurait jamais fait une chose
mais
pareille.
Mais est-ce que ses parents n'avaient pas placé trop d'espoir en lui, ce petit enfant merveilleux que l'on regarde, que l'on choisit et que l'on voit déjà aux écritures dans un bureau? Est-ce qu'ils ne se sont pas dignes d'avoir été à la hauteur du rêve de papa et maman qui vont mourir en 1912, la mère de chagrin et le père qui se suicide au bois de Boulogne?
Il y a en lui une insondable décision de mort dès l'enfance, si vous voulez. Ça n'est pas, l'enfant n'est pas le produit des parents. C'est une rencontre entre l'enfant et les parents. Landru, bien que choyé, bien que très bien élevé, avait en lui un point impossible à faire entrer dans l'échange avec l'autre. Ce point-là était pour lui intraitable.
Alors il y a aussi, ne l'oublions pas, tout un contexte. Les crimes ont eu lieu pendant la Première Guerre mondiale. Quel a été le rôle passif, quel a été le rôle de ce climat de guerre sur les crimes de Landru? C'est ce que nous voyons dans un instant.
Au cœur de l'histoire.
Alors j'étais juste en train de poser cette question. Est-ce que la Première Guerre mondiale a eu un rôle dans le contexte? Est-ce que finalement les crimes de Landru auraient pu avoir lieu hors de cette guerre, Francesca Biagichai?
Alors, je suis obligée, puisque vous parlez du contexte, de vous ramener à un autre contexte,
oui,
qui est le contexte des inventions. C'est-à-dire, en 1900, il y a énormément d'inventeurs. Et on est en train
ah oui,
de...
c'est l'époque, c'est le concours Lépine
c'est le concours,
à tous les étages.
L'aviation, l'automobile,
le cinéma,
tout extraordinaire.
Donc, lui-même est imprégné de cette époque inventive et lui-même va dessiner cette bicyclette qu'il veut rationnelle. Il ne pourra pas la commercialiser pour les raisons que je vous ai expliquées,
oui,
c'est-à-dire qu'il n'a pas la possibilité d'entrer dans le marché, dans l'échange. Et donc là, lui-même, vous voyez, s'imprègne...
Vous dites qu'il n'a pas la possibilité, c'est la possibilité psychique.
Exactement. Il s'imprègne de son époque et il donne son talent, mais il ne peut rien faire d'autre. Étant donné qu'il ne peut rien faire d'autre, eh bien, il va trouver une autre voie pour avoir de l'argent. cette autre voie va être l'escroquerie. Entre 1904 et 1914, il a passé pratiquement les trois quarts de sa vie en prison. C'est-à-dire qu'il n'est pas malin, il est intelligent. Mais il n'est pas malin, il ne tente pas d'échapper. Et c'est là où on voit que quelque chose, si vous voulez, s'aplatit. Ce n'est pas en rapport avec l'autre, c'est une sorte de platitude. On prend l'argent où il est, mais évidemment on échoue. Et juste une phrase, en 1914, avant que la guerre n'éclate, il est condamné à la relégation. C'est-à-dire que c'est le bagne. C'est-à-dire qu'il aurait fini sa vie sans la guerre comme... comme vraiment un pauvre bagnard.
Il a été sauvé par la guerre, en quelque sorte. Oui.
Un pauvre bagnard. Mais ça nous ramène à aujourd'hui.
Reste qu'il n'aurait peut-être pas pu être criminel comme il l'a été sans la guerre. Parce que personne ne faisait véritablement attention dans ce monde d'horreur. Lorsqu'il y a ce personnage qui est au bout de ce village de Gambet qui va, qui vient, on n'y prête guère attention. Il n'y a pas une seule plainte contre les odeurs et compagnie. Et toutes ces magouilles sont possibles aussi parce qu'il s'adresse à des veuves, des femmes qui sont là de plus en plus rongées par la solitude, qui n'ont plus d'espoir, de sociabilité. Et tout cela favorise son dessin.
Ça, c'est l'étude de marché qu'a fait Landru, exactement ce que vous êtes en train de dire.
Et alors, moi, la question que je posais, oui, il le dit ça clairement. Il dit mes annonces étaient une ruse commerciale et mon carnet un carnet de commerçant. Mais la question que je posais était peut-être, si je puis me permettre, plus psychologique. Est-ce que le climat de la guerre a aidé par ailleurs ?
Alors, bien entendu, c'est-à-dire que. Mais il faut voir de quelle manière, c'est ça le point le plus important. C'est-à-dire que la guerre arrive, donc lui est entré en économie de guerre. Le monde change autour de lui, lui-même change comme le monde. Les hommes tuent pour sauver leur patrie, lui tue pour sauver sa famille. Sa famille est une patrie privée. C'est en ça qu'il est fou.
Alors, un mot quand même de sa défense, Marc Menant. Il n'a pas n'importe qui comme défenseur. C'est le plus grand avocat du début du siècle, maître de Moreau Giafferi.
Et alors, avec des envolées extraordinaires. Mais néanmoins, il se sent démuni face à ce personnage. Il aimerait lui faire entendre raison. Il le presse, il lui dit « Attendez, votre arrogance ne peut que déranger le procureur, ne peut que déranger le président du tribunal. Rabaissez-en un peu, mon ami !» Et l'autre dit « Non, hors de question !» Et il a toujours ce sens de la répartie. Alors là, je ne sais pas ce que pourrait dire la psychanalyste, mais disons que c'est peut-être aussi l'heure de sa revanche, le procès. Cet homme qui a été l'espoir de ses parents, qui n'a connu que des échecs, soudain il est dans un théâtre merveilleux. Il y a tout le gratin qui se presse pour venir le voir. Et on l'écoute et il fait rire, il subjugue par les mots. Et cette force de l'éloquence doit le transcender. Je pense qu'au moment où il est dans le prétoire, il ne vit pas ses instants en tant que Landru, mais il y vit presque en tant que comédien. Et il a une sorte de réhabilitation par rapport à lui-même. Et là, maître de Moreau de Schiaffreri, qui est lui-même un prince du verbe, il doit le regarder de temps en temps presque avec jalousie, presque goulûment.
Il va essayer de piéger la cour en disant « Mesdames et messieurs, il
ça,
y a
c'est
là... »
la fin. Oui. C'est extraordinaire. Je l'ai noté parce que j'avais peur, ma mémoire à mon grand âge. Mais alors, imaginez, il va terminer sa plaidoirie. Alors, il est là et il dit « Votre conviction... » n'est pas faite. Si je vous dis « Regardez cette porte », elles sont là, dans l'antichambre du prétoire, les prétendus disparus de Landru. Elles vont apparaître. La porte va s'ouvrir. Et là, tout le monde regarde parce qu'il pointe du doigt la porte. Là, il se retourne vers les jurés qui ont tourné la tête. Et il dit quoi ? Il dit « Vous voyez que votre conviction n'est pas faite, puisque vous avez tous regardé. » Et là, l'avocat général, le procureur, Monsieur Godefroy, dit « Tout le monde a tourné la tête, sauf Monsieur Landru, car lui, il savait qu'il n'y avait personne derrière la porte. »
Mais précisément, en 1921, nombreux étaient ceux qui doutaient, on peut le dire, de la culpabilité de Landru. Alors aujourd'hui, c'est devenu impossible.
Ben voilà, c'est difficile. La cuisinière, comme il dit lui-même, c'est une cuisinière qui ressemble...
On ne peut même pas loger un crâne dans l'habitacle.
Alors, on a l'impression que c'est une cuisinière pour enfants. Mmh. Et quand on sait qu'il faut plus de 2500...
La cuisinière qui appartient à Laurent Ruquier d'Europe 1 aujourd'hui.
D'accord. Je n'irai pas chez Laurent s'il m'invite.
Laurent avait écrit une pièce de théâtre sur Landru il y a quelques années.
Il faut 2500 degrés pour faire disparaître un corps au Père Lachaise quand on incinère. Et là, dans cette dans ce petit foyer, d'ailleurs il le dit, c'est un foyer de dinette. Comment voudriez-vous que j'ai fait disparaître autant de personnes ? Et c'est vrai qu'on ne retrouvera que 300 fragments, micro-fragments de crânes humains mélangés à des morceaux d'os de musaraignes, de mulots, de poulets et de moutons. On se demande pourquoi ce bric-à-brac macabre.
Sans doute encore un mystère. Néanmoins, en 1984, le garde des Sceaux de l'époque, c'était Robert Badinter, qui avait été intrigué par une émission d'Alain Decaux sur Landru, a rouvert le dossier et il a rendu public un petit document qui avait été confié par l'accusé à Maître Navier Dutreuil, donc l'assistant direct de Maître de Moreau-Giaferi, juste avant le procès. Et c'est un plan de la cuisine de Gambet avec la cuisinière. Et il y a écrit au crayon « Ce n'est pas le mur derrière lequel il se passe quelque chose, mais bien la cuisinière dans laquelle on a brûlé quelque chose ». Et au dos de ce papier, Landru avait écrit donc pour son défenseur « Si je suis condamné et exécuté, laissez passer quelques années et vous pourrez en faire état. Si je ne suis pas exécuté, effacez s'il vous plaît le texte au crayon ». Ce sont des aveux, ça.
Alors, deux choses. La chaleur avec laquelle vous parlez de Landru n'est pas la chaleur que lui-même éprouvait.
Ah non, du tout.
Je doute qu'il ait été animé, si vous voulez, par cette fièvre même d'être porté par un théâtre. À aucun moment, on entend des phrases plutôt laconiques et plutôt ironiques. L'ironie, c'est deux structures chez lui. C'est-à-dire que depuis qu'il est né, il traite le monde avec ironie.
Oui, mais il fait rire la salle, tant et si bien que le président Gilbert, à un moment donné, dit « Si ça continue comme ça, je vais renvoyer tout le monde chez soi.
Voilà. »
Et Landru, à ce mot magique, il dit « Quant à moi, monsieur le président, je suis tout à fait...
Voilà. » Ça, je suis... Alors,
moi, j'ai éclaté de rire quand j'ai relu cela.
Ce que vous dites, c'est ça qui est intéressant, c'est cette discordance entre le sujet lui-même, comment il traverse ça, et les faits produits. Et sur les faits, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec
vous. Il doit y avoir un côté jubilatoire quand même pour le personnage.
Ça, c'est quand on se met à la place de Landru. Or, précisément, la folie fait qu'on ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un.
Marc Menant, quand vous allez rentrer tout à l'heure du côté de Gambet, vous aurez des frissons, vous y pensez ?
À moi, c'est une maison. À chaque fois que je passe, c'est-à-dire quand je vais faire mon marché à Oudan, y a quelque chose qui me glace. Je vous assure que c'est une maison sinistre. On a l'impression qu'elle était, dès le départ, nantie de mauvais présages. D'ailleurs, vous savez la rumeur qui court encore aujourd'hui, là-bas chez les vieux, c'est que c'est une maison maudite. D'ailleurs, avant, il y a eu deux suicides qui ont précédé. C'est bien pour dire.
Alors, vous me parliez de l'aveu, parce que je n'ai pas oublié que vous aviez posé cette question. En effet, il ne peut pas tout à fait avouer. Parce que avouer, ça voudrait dire reconnaître les meurtres. Or, étant donné que tout le monde tue pendant la guerre, il a fait comme tout le monde. Et pour sauver sa famille. Donc, en quoi reconnaîtrait-il un meurtre ? D'ailleurs, à un moment donné, il dit « Écoutez, il y a eu tellement de morts dans cette guerre, pourquoi ne pas considérer que je n'ai rien fait ?»
Francesca Biagi-Chaï, Le cas Landru à la lumière de la psychanalyse, s'est édité chez Imago avec une préface de Jacques-Alain Miller. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce cas et merci à Marc Menant d'avoir ressuscité les plus grandes heures d'Europe 1 à travers la fièvre d'une éloquence jamais prise en défaut.